utile.
Radio Classique. Et votre journée devient plus belle.
Radio Classique, il est 8h, nous sommes le mercredi 22 janvier. Bienvenue à tous.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Il est donc pile 8h, bienvenue à vous tous. Ségolène Royal est l'invitée politique de la matinale. Va-t-elle dire si elle sera, oui ou non, définitivement candidate à la présidentielle? Nous verrons ça dans un quart d'heure. La tempête Gloria continue d'inonder le sud-est de la France et le retour au calme n'est pas prévu pour aujourd'hui. Faut-il craindre une radicalisation dans la mobilisation contre la réforme des retraites? Les actions coup de poing se multiplient et elles sont condamnées par le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Enfin, arrivera-t-elle à convaincre? Madame Royal se lance dans la bataille des présidentielles. Nous en parlerons, je vous l'ai dit, à 8h15. Mon cher Guillaume Tabar, bonjour.
Bonjour.
Vous avez l'air sérieux, préoccupé, que se passe-t-il?
Non. Je vous écoutais. Et écoutez, ça n'était pas arrivé depuis longtemps. La droite retrouve le moral.
Radio Classique.
Nous sommes obligés de constater, et donc évidemment nous pensons beaucoup à eux, la pluie continue de tomber sur le Roussillon dans le sud-est de la France.
Oui, deux départements sont désormais concernés par la vigilance orange. Pluie, inondation, l'Aude et les Pyrénées-Orientales également placées en alerte avalanche. Par endroits, près de 3 mois de précipitations sont tombées en 3 jours. Bonjour Augustin Lefebvre.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Alors la nuit dernière a été plutôt calme, mais c'est dans les prochaines heures que cet épisode devrait être le plus intense.
Oui, on se prépare. Antoine Parra, le maire d'Argelès sur mer, a prévenu les habitants. La cellule de crise est en place. Tout ce qu'il est possible de faire du point de vue matériel a été fait, dit-il, mais il est inquiet.
Il y a 10 cours d'eau qui traversent la commune d'Argelès-sur-Mer dans une partie urbaine, et comme la mer est forte, ces cours d'eau ont du mal à se déverser en mer et donc ils montent très rapidement. C'est là que sont nos craintes, parce que les lotissements qui bordent ces cours d'eau peuvent très facilement être inondés et là on irait vers des problèmes importants.
Alors cette tempête en début d'année, c'est du jamais vu ou presque pour Cyril Bonnefoy, météorologue à la chaîne Météo.
La dernière en date, l'épisode comparable, remonte à plus de 35 ans. Dans les années 80, au début des années 80, en règle générale, c'est plutôt à l'automne qu'on observe ce type de phénomène avec une mer qui est beaucoup plus chaude à cette époque et donc plus d'évaporation, plus de précipitations qui peuvent se précipiter sur ces régions.
Alors, fin de l'épisode attendu demain dans la matinée et retour de l'anticyclone dès ce week-end sur la Méditerranée.
Merci Augustin Lefebvre.
Sophie, Emmanuel Macron est en visite en Israël et dans les territoires palestiniens.
C'est la première visite d'État pour le président français. Il participera notamment aux commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz demain. Bonjour Lucie Bréau.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
C'est une visite à caractère mémoriel surtout, mais qui devrait aussi permettre des échanges politiques en plein regain des tensions dans la région.
Mais une visite qui commence ce matin par un tête-à-tête avec Benjamin Netanyahou. Plus question d'arriver avec un plan de paix comme Emmanuel Macron l'avait évoqué juste après son élection pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Il devrait se contenter de répéter la doctrine d'une solution à deux États avec Jérusalem comme capitale. Cet après-midi, direction Ramallah pour rencontrer le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Comme François Hollande et Jacques Chirac avant lui, il fera également un crochet par Jérusalem-Est pour visiter la basilique Sainte-Anne. C'est l'un des 4 territoires français de la ville. Il pourrait aussi déambuler dans cette partie de la ville qui est occupée par Israël depuis 1967. C'est dans ce quartier que Jacques Chirac s'était emporté, vous vous en souvenez, en 96 contre des soldats israéliens qui l'encadraient de trop près en lançant son désormais célèbre « Do you want me to go back to my plane ?»
Merci Lucille Bréau. Toujours à l'étranger, le mystérieux virus chinois continue de susciter l'inquiétude. Alors qu'un nouveau bilan fait état de 9 morts et 440 patients contaminés en Chine, un premier cas a été recensé aux États-Unis. En revanche, les autorités australiennes annoncent qu'un homme qui avait été placé à l'isolement à Brisbane n'est finalement pas atteint du virus.
La grève contre la réforme des retraites se poursuit ce matin. La CGT Énergie revendique plusieurs coupures de courant, ce qui fait, non pas hurler, mais protester le Premier ministre à l'Assemblée nationale, dans le sud parisien, hier, et dans la centrale hydroélectrique de Grand-Maison en Isère.
Autre secteur mobilisé, le secteur maritime, avec une nouvelle opération de blocage des ports dès aujourd'hui et jusqu'à vendredi, toujours à l'appel de la CGT. La semaine dernière, une opération similaire avait déjà été très suivie, des dizaines de camions qui tournent en rond, des conteneurs bloqués, des transporteurs qui attendent. Une paralysie de l'activité qui inquiète de plus en plus les entreprises du secteur, Émilie Vallès.
Il n'y a pas pire pour commencer
commencer l'année se désole Clément Balladur, PDG d'HBI. Cet organisateur de transport maritime a ses entrepôts au port du Havre et de Marseille. Il transporte notamment des produits pharmaceutiques et agroalimentaires et cela tourne au ralenti depuis plusieurs semaines. Il a déjà perdu 300 000 euros.
Ça entraîne une pression supplémentaire et puis surtout une désorganisation. Il faut constamment réfléchir pour trouver la meilleure solution possible pour acheminer la marchandise. Donc aujourd'hui, nos camions, ils partent sur Barcelone, sur Gênes, sur Anvers, pour que les conteneurs qui sont sur les camions puissent être mis sur des navires. C'est très, très préoccupant parce qu'en fait, on ne voit pas l'issue.
Et au-delà des pertes pour les entreprises, le secteur craint que les autres ports européens profitent de ces grèves. Florent Noblet est délégué général du syndicat professionnel des transporteurs TLF Overseas.
Sur du plus long terme, évidemment, ça laisse une image assez déplorable de l'attractivité des ports français. Le secteur du maritime jusqu'à présent globalement se portait quand même plutôt bien. Et là, en quelques semaines, ce sont des années qui sont ruinées pour reconquérir des parts de marché justement par rapport à nos challengers européens et nord-européens où la concurrence est très sévère pour ne pas dire féroce.
Et ces professionnels dénoncent l'inaction de l'État qui, selon eux, refuse de débloquer les ports.
Émilie Vallès, et à Marseille, la Chambre de commerce et d'industrie de la métropole évalue à près de 100 millions d'euros les pertes dues au blocage du port en décembre.
Elle sera l'invitée politique à 8h15. Ségolène Royal se lance à l'assaut, entre guillemets, donc de l'élection présidentielle de 2022, car tout n'est pas définitivement clair. On verra ça dans un instant, mais il faut quand même s'intéresser à son cas.
Elle sera bientôt libérée de son poste d'ambassadrice d'épaule et elle ne cache plus son ambition de peser dans l'échiquier politique. L'ancienne ministre a lancé un club de réflexion. Désir de France, avenir de la planète, c'est son nom. Alors ce n'est pas un parti politique, mais peut-être un tremplin pour le scrutin de 2022. En tout cas, victoire fort, Ségolène Royal se dit déterminée.
Le logo est déjà prêt. Un planisphère de couleur verte où se dessine une Marianne. Processus de candidature, dit Ségolène Royal, qui se présente sans phare comme la troisième voie. Alternative au duel, Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Un éternel retour dans l'arène politique pour la dame du Poitou qui mise à nouveau sur son franc-parler. Personnalité complexe, dit le politologue et sondeur Jérôme Sainte-Marie, mais la recette ne fonctionne plus.
Il faut bien reconnaître qu'elle s'est éloignée de l'attention des Français, tant et si bien qu'on voit mal aujourd'hui comment elle pourrait revenir efficacement dans la vie politique. Je crois que son image est de ce fait durablement abîmée dans l'opinion.
Peu de personnalités émergent à gauche et en trois décennies, Ségolène Royal a su mettre en avant des thématiques nouvelles. La démocratie participative, le féminisme, l'écologie. Alors avec son association Désir de France, Avenir de la planète, elle va se frotter au terrain. De quoi tester aussi son positionnement. Des déplacements sont annoncés tout au long de la campagne municipale.
Les explications de Victoire Fort.
L'Opéra de Paris toujours dans l'impasse. Hier soir, le rideau est resté baissé pour la première des Contes d'Hoffmann, l'opéra fantastique de Jacques Offenbach. Je ne sais pas ce qu'il me prend ce matin.
Pourquoi pas.
Ça doit être la fatigue.
Depuis le 5 décembre, début de la mobilisation contre la réforme des retraites, ce sont tous les opéras et les ballets qui ont été annulés. Lors de ses vœux vendredi, devant l'ensemble des personnels de l'institution, le directeur Stéphane Lissner a longuement plaidé en faveur d'une reprise du travail pour éviter des conséquences catastrophiques, Sophie Paolini.
C'est le plus long conflit de l'histoire récente de cette institution tricentenaire. À lui seul, le bilan des grèves donne le vertige. 14 millions d'euros de pertes pour 2019, l'équivalent de la contribution annuelle de l'État à la caisse de retraite de l'Opéra. Les répercussions sont donc immédiates. Vendredi, devant l'ensemble du personnel, le directeur de l'Opéra, Stéphane Lissner, a expliqué devoir demander des économies drastiques à l'ensemble de ses services. Il assure que les modalités d'application de la réforme des retraites devront encore être négociées cette année. Pas de quoi apaiser la fronde. L'hécatombe d'annulation se poursuit. Aucune représentation n'a pu se tenir depuis le début du mois de janvier. Il est temps de voir le rideau se lever à nouveau et de renouer le lien avec nos publics, plaide Stéphane Lissner. Un souhait toujours en suspens. À ce jour, 150 000 spectateurs ont été impactés.
Sophie Paolini, et le rideau qui tombera ce soir en revanche sur l'anticonformiste de la mode française. Dernier défilé pour le couturier Jean-Paul Gaultier. Cela viendra clore un chapitre de 50 ans de présentation de mannequins atypiques et de créations à contre-courant.
Voilà, on se souvient notamment, par exemple, des concerts de Madonna, avec donc ce bustier assez particulier. Nous parlerons évidemment de ça demain matin. Vous savez que ce soir à 23h, je vous l'apprends, Francis Drezel consacre son disco portrait au célèbre violoniste Yehudi Menuhin. C'est sur notre antenne et on est ravis d'en parler. On écoute notamment interpréter l'hiver de Vivaldi avant le passage politique de l'émission. Thank you.
Voilà, Yehudi Menuhin, personnage exceptionnel, donc grand violoniste et qui a joué, comme me le rappelait il y a quelques instants, donc Guillaume Tabar, jusqu'à plus de 85 ans. Il est 8h09, voici la page politique, Guillaume Tabar, Ségolène Royal.